Vous êtes bien à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 15h à Gaza, une heure de moins ici à Paris. L'heure du journal avec vous, Karine Bellicha. Bonjour Karine.
Bonjour Simon, bonjour à tous. À la une, le cessez-le-feu de janvier tiendra-t-il au Proche-Orient? La défense civile palestinienne dénonce un bombardement israélien près de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. L'État hébreu dément, Israël qui reste déterminé avec l'appui américain à prolonger la première phase de la trêve alors que les négociations piétinent au Caire. Les alliés de l'Ukraine tiennent sommet dans une heure à Londres. Britanniques et Français sont à la manœuvre face au rapprochement de Washington et de Moscou et travaillent de concert sur un plan de cessez-le-feu aux côtés de Kiev. Message clair, pas question d'avancer sans les Ukrainiens. Présents à Londres, Italie et Pologne mettent en garde contre les dangers des divisions entre Européens et Américains. Et puis nous évoquerons une note secrète du ministère français de l'Intérieur publiée aujourd'hui qui pourrait bien remettre de l'huile sur le feu entre Paris et Alger après les déclarations d'Emmanuel Macron qui étaient destinées à apaiser les tensions. La tension est donc forte au Proche-Orient. La défense civile de la bande de Gaza a annoncé ce matin un bombardement israélien près de Khan Younes, dans le sud de l'enclave. Au total, 4 Palestiniens ont été tués aujourd'hui, toujours selon les autorités locales. Israël dément un bombardement, dit avoir visé des suspects manipulant des engins explosifs. La situation est tendue depuis quelques heures, depuis la décision de l'État hébreu de stopper l'entrée de l'aide à Gaza et de prolonger la première étape de la trêve. Faute d'accord sur la suite, ce matin, le ministère israélien des Affaires étrangères, avec Gideon Saar, a confirmé qu'une réunion du cabinet de sécurité avait eu lieu cette nuit. C'est au cours de cette réunion que le gouvernement israélien a décidé de se rallier à la proposition de l'envoyé spécial de la Maison Blanche. Gideon Saar explique les raisons de ce revirement.
Allez-vous accorder ce cessez-le-feu gratuitement, sans libération d'otages? C'est une chose que nous n'accepterons pas. Donc oui, nous sommes prêts à négocier sur la deuxième phase selon nos principes. Nous sommes également d'accord avec la proposition américaine d'un cadre plus long de 50 jours supplémentaires pendant le Ramadan et la Pâque. Mais dans ce cadre, selon la proposition américaine, une libération d'otages est prévue.
Condamnation du Hamas et du djihad islamique, cette première phase devait se terminer hier, mais Israël a donc décidé de la maintenir encore jusqu'à mi-avril avec l'aval de Washington. Les autorités israéliennes bénéficient du retour de Donald Trump au pouvoir. En Iran, il a précipité la chute du ministre de l'économie. Le rial, déjà mal en point, s'est effondré un peu plus encore depuis le retour de Donald Trump dans le bureau ovale. L'inflation est galopante. Alexis Bédu, bonjour.
Bonjour Karine, bonjour à tous.
Rendu responsable de la crise économique, le Parlement a révoqué Abdel Nasser Emati.
Oui, les critiques sont vives contre sa gestion de l'économie nationale. Un dollar s'échange à plus de 900 000 rials au marché noir. C'est 300 000 de plus qu'en juillet dernier, dépréciation fulgurante de la monnaie nationale, inflation chronique en moyenne 30% depuis 2019. Le président Massoud Pezeshkian a tenté à la tribune de défendre son ministre de l'économie.
Gaza, le Liban, la Syrie, Trump, chacun de ces problèmes nous a fait entrer dans une guerre économique à grande échelle, avec de nombreux ennemis. Se blâmer les uns les autres ne résoudra pas nos problèmes. Quand nous sommes en guerre, il faut accepter l'état de guerre.
La réélection de Donald Trump qui avait réimposé les sanctions contre l'Iran lors de son premier mandat, la chute de Bachar al-Assad dont l'Iran était le principal allié, autant d'événements internationaux qui ont un peu plus précipité la chute du rial et donc le limogeage d'Abdel Nasser Emati. Il y a 2 ans, c'était le ministre de l'Industrie qui avait été destitué à cause de la flambée des prix.
Alexis Bédu du service économie d'RFI. Il était prévu avant la violente prise à partie de Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale. Depuis, le sommet à Londres semble encore plus crucial. Britanniques et Français disent travailler sur un plan de cessez-le-feu aux côtés des Ukrainiens. La Pologne et l'Italie mettent en garde contre une division entre Européens et Américains. Tous se réunissent avec les dirigeants de l'OTAN, du Canada et de l'Union européenne autour du Premier ministre britannique, Keir Starmer, dans une heure maintenant. Un sommet à Londres pour une Europe dont l'avenir est désormais empli d'incertitudes. À Bruxelles, les précisions de Jean-Jacques Herry.
La plupart des participants qui seront présents aujourd'hui autour de la table ont publiquement soutenu l'Ukraine et son président après la déflagration qu'a été la scène du bureau ovale. Et aujourd'hui, dans la capitale britannique, ils doivent commencer à esquisser concrètement les contours d'une réponse et d'une posture commune face à une évolution géopolitique dans laquelle les États-Unis ne sont plus les protecteurs de l'Europe. Le risque, voir ces derniers se désengager de l'OTAN et donc la disparition du parapluie militaire et nucléaire américain. Un changement de paradigme total pour une Europe qui a tout à bâtir pour organiser ses outils de défense. À cet égard, l'idée d'une dissuasion nucléaire européenne partagée, demandée par l'Allemagne et dont la France se dit prête à discuter, pourrait être une piste, selon Alain Deneuve, chercheur à l'Institut Royal Supérieur de Défense à Bruxelles.
À court terme, évidemment, la marge de manœuvre des Européens, elle est très étroite, voire pratiquement inexistante. La dimension européenne de la dissuasion nucléaire, elle pourrait permettre sans doute à l'Europe de gagner du temps pour reconstruire ses forces dans le cadre d'une protection supplémentaire et qui ne peut plus être celle qui était garantie autrefois par les États-Unis.
Se posera également la question du cadre dans lequel viendra s'inscrire la réponse européenne. OTAN, Union européenne, nouvelle structure. Une interrogation épineuse à laquelle il faudra pourtant commencer à répondre vite, très vite, pour des Européens qui doivent passer de la sidération à l'action, car le calendrier vient brusquement de s'accélérer. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
Une accélération évoquée par Emmanuel Macron. Dans une interview à la presse écrite ce matin, le président français appelle au réveil stratégique du continent. Si Vladimir Poutine n'est pas stoppé, ajoute-t-il, Moscou poussera ses troupes jusqu'à la Moldavie, voire même jusqu'en Roumanie. Sur la crise avec l'Algérie à présent, alors qu'Emmanuel Macron, en déplacement au Portugal, avait appelé à l'apaisement entre Paris et Alger, repoussant les jeux politiques et qualifiant de ridicule les échanges par voie de presse, le journal La Tribune publie une note secrète du ministère de l'Intérieur revendiquant la nécessité d'engager un rapport de force avec les autorités algériennes. Les explications d'Aurélien Devernois.
La fuite intervient moins de 48 heures après les déclarations d'Emmanuel Macron, considérées comme un camouflé pour le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Dans cette note de 3 pages, censée être hautement confidentielle, les services de l'Intérieur exposent la stratégie pour tordre le bras à Alger. Restrictions massives de visas, en priorité pour l'élite politique, économique et militaire du pays, contrôle renforcé des liaisons maritimes, convocation des consuls généraux algériens. Mais aussi remise en cause de dossiers éminemment sensibles, comme l'indemnisation des essais nucléaires menés par la France en Algérie. Un changement de posture nécessaire, explique le texte, face aux vexations et entraves soigneusement mises en scène par Alger, en particulier l'action d'influenceurs algériens sur les réseaux sociaux, qualifiés de menaces directes à la sécurité. Une manière de placer dans le débat public français les propositions défendues par Bruno Retailleau, pas vraiment partisan des conciliabules diplomatiques prônées par son collègue des affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. La position du Quai d'Orsay, qui semble pour l'instant avoir les faveurs d'Emmanuel Macron, au moins dans sa volonté de ne pas outrageusement mettre en scène la dispute entre les deux pays.
L'île de la Réunion est défigurée, ce sont les mots du préfet après le passage du cyclone dans l'île française de l'océan Indien. Garance a fait 4 morts et les dégâts matériels sont considérables. Plus de 300 000 habitants sont toujours privés d'eau potable. Beaucoup de routes sont détruites et des torrents d'eau ont tout emporté sur leur passage. Les cultures de l'île ont beaucoup souffert également. Des renforts de la sécurité civile venus de Métropole et de Mayotte vont prêter main forte aux secours réunionnais. Aux États-Unis, le tapis rouge est déjà déroulé à Hollywood. La cérémonie des Oscars aura lieu ce soir pour récompenser les films de l'année. La tragicomédie Anora et le thriller papal Conclave sont au coude à coude pour le prix du meilleur long métrage. Emilia Pérez de Jacques Audiard pourrait repartir bredouille, plombée par les tweets racistes et islamophobes de son actrice principale. Côté interprétation, nommée pour The Brutalist, Adrien Brody qui incarne un architecte survivant de l'Holocauste par favori pour remporter l'Oscar du meilleur acteur. Demi Moore pourrait aussi s'imposer grâce à sa performance dans The Substance de la Française Coralie Farja. Enfin, après l'espace, la Lune, après 45 jours de voyage, un robot qui transporte divers instruments scientifiques de la NASA s'est posé sur la face nord-est de la Lune. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.